Écoutez-nous sur Internet dw.com/français.
Pour moi, le nombre de morts est plus élevé parce que hier, moi, j'ai fait un débat télévisé avec deux personnes. Toutes ces deux personnes ont discuté au téléphone avec le maire de la commune concernée. Et c'est le maire lui-même qui avait invité le préfet, donc le commandant de cercle de Sanga et autres. Donc ils étaient sur place et apparemment ils ont fait des décomptes. Ils ont appelé tous les survivants. Ils ont demandé à chaque survivant combien de personnes tu avais chez toi. Et donc les gens ont donné des indications. Donc c'est comme ça qu'on a pu savoir le nombre de personnes disparues. Et ils ont fait des décomptes. Maintenant, il y a des corps apparemment qui étaient dans un état de déchiquetement assez avancé. On ne pouvait pas forcément les identifier sur le coup. Mais ces deux personnes qui ont discuté avec le maire de la localité ont confirmé que le maire leur avait dit que c'était bien 95 morts et au moins 17 ou 15 disparus. Bon, donc ça, c'est vraiment des chiffres, pour moi, qui sont les chiffres véridiques. Parce que c'est le maire de la localité qui, lui, a donné l'information à qui des droits. Et il a dit que le décompte a été fait en présence du préfet et du sous-préfet du cercle. Bon, donc quand c'est le cas, c'est pour moi l'autorité légitime. Le gouverneur de Mopti, d'ailleurs, a été relevé par l'État malien au Conseil des ministres. Donc cela prouve à suffisance l'erreur qu'il a dû commettre, quoi. Dans ses propres chiffres.
Oui, et selon vous, pourquoi le gouvernement a revu à la baisse le nombre des morts?
Bon, vous savez, l'administration, c'est la hiérarchie et c'est les papiers. Il est vrai que le maire, lui, il a dit qu'il était avec le sous-préfet et le préfet, mais le gouverneur est le chef au niveau local. Donc, c'est le gouverneur l'autorité légitime. Après lui, c'est les ministres de l'Intérieur. Donc, c'est sur la base des papiers. Lui étant chef de la région, c'est sur ses propositions, en tout cas, que le gouvernement est obligé de faire des choses. Mais je ne suis pas sûr que le gouvernement lui-même ait d'autres preuves pour le moment qui contestent les propos du maire qui était avec les chefs de village de la localité et le préfet et le sous-préfet.
Alors, monsieur Brema Eli Diko, qu'est-ce qui explique cette résurgence de ces violences alors que l'État était censé quand même prévenir, non, ce genre de massacre après ceux intervenus simplement récemment en mars?
Bon, pour moi, c'est assez simple. Hein. Vous savez, depuis 2015, le centre du Mali a commencé à être l'épicentre de l'insécurité. Il y a eu beaucoup de réunions des collectifs des députés et puis d'autres cadres de la région pour essayer de trouver des solutions. Des propositions ont été faites. Mais en ce temps-là, l'État n'a pas forcément pris la mesure du phénomène. On a commencé à l'époque 2015, c'était encore la fin des négociations à Alger. Donc on voulait résoudre la situation du Nord, ce qui préoccupait l'État. Donc entre-temps, les groupes terroristes ont dû s'appuyer sur des frustrations locales, sur des problèmes, donc sur un terreau favorable, pour recruter des gens en fait au niveau local. Et c'est pour ça que petit à petit, le djihad a commencé à avoir le leadership local. Entre-temps, tout ce qui représentait l'État, les sous-préfets, les préfets, les gendarmes, les gardes, ont commencé à se replier dans les grandes villes, notamment à Mopti. Vous allez à Mopti, par exemple, aujourd'hui, vous avez la base de l'AMISMA, la base du G5 Sahel, vous avez quelques soldats de Barkhane, vous avez l'armée des terres, l'armée de l'air, vous avez la garde. Et même le village qui a été attaqué, à 15 km de ce village, il y a un camp de l'armée malienne. Il y a au moins 60 soldats maliens qui sont cantonnés, mais qui n'ont pas reçu l'instruction de la hiérarchie. Donc pour moi, pour simplifier véritablement, c'est le laxisme de l'État qui a expliqué pourquoi la violence a atteint cette proportion. Pourquoi? Parce que lors d'un des conseils des ministres, on a dissous la milice d'Anna Massagou suite à l'attaque d'Ogossagou, mais c'était une dissolution discursive, sur papier, mais dans les faits, Dana Ambassagou continue en fait à faire des opérations dans la localité pour la simple raison que les gendarmes, les militaires qui doivent assurer la sécurité des personnes et des biens sont cantonnés dans les chefs-lieux de cercle ou d'arrondissement et refusent de faire des patrouilles au-delà d'un rayon de 15 km. Alors que l'État sait où se trouvent les poches et à chaque fois, des alertes sont données. Je prends le cas de la dernière attaque de Soban Da. L'alerte a été donnée. L'attaque a commencé à 17h, l'attaque a pris fin à minuit. Mais le gouvernement malien a menti dans son communiqué en disant que l'attaque a eu lieu à 3h du matin, ce qui n'est pas vrai d'après le maire de la localité. Donc pour moi, il y a une certaine peur de nos soldats à protéger les populations.